Et les matins débutent avec le journal de Catherine Dutu. Bonjour Catherine.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Lutter contre les inégalités au travail, mais aussi contre les violences sexuelles et sexistes du quotidien, c'est ce que rappelle ce 8 mars, journée internationale des droits des femmes. Marlène Schiappa, la secrétaire d'État chargée de l'égalité femmes-hommes, rappelle les efforts que Paris doit poursuivre en la matière.
Toute l'année pour en parler, mais une journée particulière de manifestation, nous irons à Madrid dans un instant.
Où les féministes organisent, comme l'an dernier, une manifestation, un rassemblement contre le machisme visible dans toute la société espagnole. À la une encore, de nouvelles manifestations aujourd'hui en Algérie contre une cinquième candidature du président Abdelaziz Bouteflika. Et puis dans ce journal, nous irons en Syrie où les djihadistes du groupe État islamique sont toujours acculés dans leur dernier réduit à Baghouz, à l'est du pays. Les civils tentent de fuir les combats.
Et puis la question du jour, Catherine, dans une dizaine de minutes, psychotropes, des médicaments qui rendent violents, point d'interrogation. On posera la question à un journaliste d'investigation, Roger Langlais, qui publie un livre à charge sur ce sujet.
Tous les trois jours, en France, une femme meurt sous les coups de son conjoint ou de son ex-conjoint. Et c'est l'un des chiffres glaçants qu'il faut rappeler en cette journée internationale des droits des femmes. Depuis le 1er janvier, le bilan a déjà atteint 30 victimes. C'est ce que déplore Marlène Schiappa. La secrétaire d'État chargée de l'égalité femmes-hommes indique également dans les pages du Parisien à lire ce matin que 2000 signalements pour des violences sexuelles ou sexistes ont été enregistrés sur la plateforme en ligne avec des policiers spécialisés. Mais le nombre de plaintes reste encore faible par rapport au nombre de femmes agressées. Seuls 14% des victimes de violences conjugales osent porter plainte. Et c'est pour les aider que le commissariat d'Amiens travaille depuis une quinzaine d'années avec une assistante sociale, François Sauvestre.
Christine Defonte n'est pas policière, elle dépend du conseil départemental de la Somme, mais depuis 2014, c'est bien dans les murs du commissariat d'Amiens qui situait son bureau, là où elle a reçu l'an dernier 250 femmes victimes de violences essentiellement conjugales.
On a une mission bien sûr de réassurance par rapport à la procédure qui va être engagée à l'égard de leur conjoint, pouvoir un peu démystifier ce côté judiciaire. Donc du coup, ça permet aussi un tremplin afin que l'enquête elle puisse se dérouler au mieux.
Une assistante sociale, mais aussi une psychologue qui travaille de pair avec la dizaine d'enquêteurs du groupe de protection des personnes vulnérables et celui des mœurs, des policiers qui ont ces dernières années fait de gros efforts dans l'accueil des femmes victimes de violences, selon Fabrice Navarro, le directeur adjoint de la sécurité publique dans la Somme.
L'accueil des victimes d'une manière générale est prioritaire, et particulièrement sur les femmes victimes de violences, notamment quand on sait la difficulté que représente ce premier pas, qui est de franchir le seuil d'un commissariat. Donc la police s'est adaptée. On a aujourd'hui des policiers qui sont rompus à ce type d'enquête. Et donc il va à la fois falloir qu'ils soient dans l'empathie, mais également qu'ils n'aient pas de préjugés face à la victime.
Des consignes enseignées dès l'école de police et renforcées par des formations en interne pour encore améliorer cet accueil des victimes. Des victimes toujours plus nombreuses à porter plainte. Celles pour des viols ont augmenté de 17% en France entre 2017 et 2018.
Et en cette journée internationale des droits des femmes, Berlin fait pour la première fois de ce 8 mars un jour férié pour ses 4 millions d'habitants et d'habitantes. Dans une Allemagne fédérale, la capitale État tient à poursuivre les luttes contre les inégalités salariales, notamment 21% d'écart entre les femmes et les hommes en Allemagne. Berlin qui veut également en finir avec le plafond de verre en instaurant des quotas au sein des conseils d'administration d'entreprises. Les Espagnols, elles, reconduisent leur grève féministe du 8 mars. Comme l'an dernier, grève générale au travail et à la maison pour protester contre les inégalités salariales, contre la violence machiste, les discriminations au quotidien ou encore les remises en cause du droit à l'avortement dans un contexte de résurgence de l'extrême droite. Le reportage de Mathieu de Taillac.
Elles se sont donné rendez-vous dans un espace autogéré au sud de Madrid. Quelques jours avant le grand événement, les féministes de la commission du 8 mars se lancent dans de grandes embrassades. Elles font le point sur les actions de la journée et se souviennent de cette première grève générale féminine l'an dernier, couronnée de succès et de grandes mobilisations dans tout le pays. Isabelle Cadenas est l'une des porte-paroles.
Il y a eu vraiment un changement symbolique, même si ce n'est pas traduit dans beaucoup de lois. Maintenant, il y a beaucoup de choses qu'on n'acceptait plus. Il y a beaucoup de problèmes que les femmes ne prennent pas comme des problèmes individuels, mais qu'on prend vraiment comme des problèmes collectifs.
Puisque la méthode à mobiliser, elle est réutilisée. Grève générale dans le travail, mais aussi grève des tâches domestiques et grève de la consommation. Une chose a changé toutefois depuis l'an dernier, c'est l'apparition d'un parti d'extrême droite, Vox, qui attaque explicitement le féminisme dans ses discours. La peur d'une radicalisation existe et mobilise, mais les activistes refusent pour la plupart de trop en parler pour ne pas faire leur jeu. Louis-Cy, par exemple.
On ne veut pas être dans l'affrontement avec eux, ni penser à eux au lieu de penser à nous et à nos priorités. On ne veut pas perdre notre temps et notre énergie alors qu'on a tant à faire. Il ne faut pas leur faire de publicité. Moi, je ne veux même pas les nommer.
Les féministes, donc, veulent se centrer sur leur cause. Elles le chantent. La calle es nuestra, otra vez, à nouveau, la rue est à nous.
Mathieu de Taillac à Madrid pour France Culture. Direction l'Algérie à présent, où pour un troisième vendredi consécutif, des manifestations sont prévues dans tout le pays contre une cinquième candidature d'Abdelaziz Bouteflika à la présidentielle. Hier, les autorités algériennes appelaient une fois de plus à la vigilance contre un risque de chaos, mais les manifestants semblent eux convaincus que leurs rassemblements se feront dans le calme jusqu'à ce qu'ils obtiennent un changement du système. Thibaut Cavaillès.
L'appel à des marches pacifiques n'émane pas d'une quelconque organisation, mais plutôt de l'inconscient collectif algérien marqué par la décennie noire et qui veut qu'aujourd'hui, tous tiennent à manifester avec le sourire. Même les plus défavorisés, aux revendications peut-être plus nombreuses. Militant associatif, Hakim Haddad, de passage à Paris, nous raconte ce qu'il a vu au cœur des manifestations algéroises.
J'ai vu des gens qui participent régulièrement dans les stades, etc., à des affrontements avec la police. Je pense qu'ils étaient colériques, mais ils n'exprimaient pas cette colère. Bien au contraire, c'était le sourire, c'était les chants, c'était la joie.
Mais si le régime, aujourd'hui de plus en plus isolé, demandait aux forces de l'ordre d'agir plus sévèrement, ce sera compliqué, assure depuis Alger Massen Sencherbi, doctorant à l'université Paris-Assas.
Le problème, c'est qu'elles interviendraient contre leurs enfants, leurs parents, leurs propres frères. On a eu des photos qui ont circulé un peu à gauche à droite, tel policier embrassant son fils qui était un manifestant, tel policier recevant des fleurs de manifestantes, etc. Si les policiers accepteraient d'appliquer ses ordres, je ne saurais vous le dire. En tout cas, on sent bien un malaise chez les policiers.
Hier, un communiqué présidentiel appelait à la prudence contre une infiltration du mouvement, intérieur comme extérieur, et pouvant provoquer le chaos. Cette main de l'étranger tant brandie par le pouvoir pour inquiéter le peuple, qui désormais n'est plus dupe.
Blackout complet ou presque au Venezuela. Une gigantesque panne électrique plongée hier soir Caracas et la majeure partie du pays dans le noir complet. Nicolas Maduro, le président contesté, tient les États-Unis pour responsables d'une guerre de l'électricité. Quant à l'opposant Juan Guaido, reconnu lui comme président par intérim du Venezuela par Washington et Paris notamment, il estime que la renaissance du circuit électrique et celle du pays passe par la fin de l'usurpation.
7h07 sur France Culture, la suite des matins avec le journal de Catherine Dutu. Il est symboliquement le personnage le plus important de l'Église de France, le cardinal Barbarin, condamné hier à 6 mois de prison avec sursis pour ne pas avoir dénoncé des actes pédophiles. Il va quitter ses fonctions.
Le primat des Gaules, l'un des faiseurs de papes, doit remettre sa démission dans quelques jours. La décision finale revient donc à présent au chef de l'Église catholique qui a promis d'appliquer la tolérance zéro. Le pape François demandait il y a 2 semaines lors d'un sommet inédit au Vatican d'en finir avec le silence autour des abus sexuels dans l'Église. La correspondance à Rome de Mathilde Imberti.
Aucune date n'est encore fixée à Rome pour une rencontre entre le pape François et l'archevêque de Lyon. Le Vatican ne laisse rien filtrer, pas un commentaire sur la décision du cardinal Barbarin de remettre sa démission. Les deux hommes se connaissent bien, faits cardinaux au début des années 2000, ils ont vécu ensemble 2 conclaves, dont celui qui a vu l'élection à la tête de l'Église du cardinal Bergoglio. Le chef de l'Église catholique peut théoriquement refuser la démission du cardinal Barbarin. Il l'avait fait en 2016, quand le prélat lyonnais avait envisagé déjà de renoncer. Ce serait un contresens et une imprudence, avait alors commenté le pape, mais l'affaire venait tout juste d'éclater. Maintenant que la justice pénale française a rendu un jugement, et un jugement sévère sur les manquements de Philippe Barbarin, le pape François n'a probablement pas d'autre choix que d'accepter son départ et de nommer un successeur à la tête du diocèse. Il y a 2 petites semaines, lors d'un sommet extraordinaire au Vatican, il promettait une lutte à tous les niveaux contre la pédophilie, soucieux d'appliquer la règle de la tolérance zéro envers les responsables d'abus sexuels et ceux qui les couvrent.
Sa culpabilité ne faisait aucun doute pour les procureurs. Le djihadiste français Mehdi Nemmouche a été déclaré coupable hier des 4 assassinats terroristes commis le 24 mai 2014 au musée juif de Bruxelles. Le roublaisien de 33 ans et son co-accusé, le marseillais Nasser Bendrer, encourent la réclusion à perpétuité. Les peines ne seront pas annoncées avant lundi. L'accusation estime que cette tuerie antisémite est le premier attentat commis en Europe par un combattant de retour de Syrie. La Syrie où les djihadistes du groupe d'État islamique sont toujours acculés dans leur dernier réduit à Baghouz, à l'est du pays, un village près de l'Irak que tentent de fuir les civils à la faveur de pauses dans les combats, des pauses marquées par les forces démocratiques syriennes, cette alliance anti-djihadiste dominée par les Kurdes. Le reportage d'Aurélien Colli dans la région de Baghouz.
Les forces démocratiques syriennes le reconnaissent, elles ne s'attendaient pas à un tel scénario pour la dernière bataille contre Daesh. Chaque jour, on croit que c'est la fin, mais chaque jour, il y a encore des civils qui sortent et ça ne s'arrête jamais. On est surpris par leur nombre, concède leur porte-parole, Mustafa Bali. 7000 sorties depuis le début de la semaine, des hommes, des femmes, des enfants, épuisés, hagards, blessés, partisans d'un califat en lambeaux que des centaines de civils, eux, ne veulent toujours pas abandonner. Ce sont des familles de djihadistes qui veulent rester à l'intérieur, mais pour nous, ça reste des civils et on essaie de les récupérer, explique le porte-parole de la force arabo-kurde, qui compte en fait sur le siège de l'enclave et l'alternance de pilonnage et de pause pour la vider de tous ceux qui ne combattent pas. Pour les djihadistes, on n'a pas de chiffres précis. On pense qu'ils sont encore plus d'un millier à l'intérieur, ajoute-t-il, en rappelant qu'aucune date ou ultimatum n'a été fixé et que la priorité reste d'épargner les vies de celles et ceux qui n'ont pas pris les armes.
Aurélien Colli, envoyé spécial de France Culture dans la région de Baghouz, en Syrie. Les bourses européennes ont terminé dans le rouge hier, affectées par la Banque Centrale Européenne et ses sombres perspectives de croissance. Plus que 1,1% cette année pour l'ensemble de la zone euro, 1,6% en 2020 contre 1,7% lors de ses précédentes prévisions. La BCE maintient donc ses taux directeurs au plus bas et ne compte pas les relever avant au moins fin 2019. Et ce, pour faire face à de nombreux doutes économiques et politiques. C'est ce que note Stéphanie Villers, spécialiste de la zone euro.
C'était prévisible. Je pense que la BCE a voulu jouer la prudence. Il y a quand même pas mal d'incertitudes devant nous, avec notamment le Brexit, qui trouve toujours pas d'issue, mais aussi les négociations commerciales entre les États-Unis et la zone euro, qui pour l'instant n'ont pas encore été enclenchées, mais qui risquent de déclencher quelques tensions à venir entre la zone euro et les États-Unis. Donc je pense que dans ce contexte, la BCE a voulu se montrer prudente, a baissé ses prévisions de croissance. Et son message, c'est qu'elle restera en soutien de l'économie si tant est qu'il y ait des problèmes. C'est aussi une chance pour l'ensemble des agents économiques de la zone euro, des taux d'intérêt plus bas. C'est aussi donner plus de facilité pour les entreprises pour investir et certainement aussi pour les ménages pour acheter un logement et placer dans l'immobilier.
L'économiste Stéphanie Villers, jointe par Bastien Roch. Le temps de ce vendredi 8 mars, partagé entre pluie et éclaircies, sauf près de la Méditerranée, où le soleil va dominer. Au meilleur de la journée, il fera entre 11 et 15 degrés en général, jusqu'à 18 près de la Méditerranée, et même 20 sur la Côte d'Azur, Guillaume Herner.
Merci Catherine Dutu. Il est 7h13 sur France Culture. Dans quelques instants, psychotropes, des médicaments qui rendent violents, point d'interrogation.